Le lendemain, grâce à une insistance jugée déplacée, Rieu obtenait la convocation à la préfecture d'une commission sanitaire.
« Il est vrai que la population s'inquiète »,
avait reconnu Richard.
« Et puis, les bavardages exagèrent tout. Le préfet m'a dit « Faisons vite si vous voulez, mais en silence. » Il est d'ailleurs persuadé qu'il s'agit d'une fausse alerte. »
Bernard Rieu prit Castel dans sa voiture pour gagner la préfecture.
« Savez-vous,
lui dit ce dernier,
que le département n'a pas de sérum ?»« Je sais. J'ai téléphoné au dépôt. Le directeur est tombé des nues. Il faut faire venir ça de Paris. J'espère que ce ne sera pas long. J'ai déjà télégraphié,
répondit Rieu. Le préfet était aimable mais nerveux.
« Commençons, messieurs,
disait-il.
« Dois-je résumer la situation ?»
Richard pensait que c'était inutile. Les médecins connaissaient la situation. La question était seulement de savoir quelles mesures il convenait de prendre.
« La question,
dit brutalement le vieux Castel,
est de savoir s'il s'agit de la peste ou non. »
Deux ou trois médecins s'exclamèrent. Les autres semblaient hésiter. Quant au préfet, il sursauta et se retourna machinalement vers la porte, comme pour vérifier qu'elle avait bien empêché cette énormité de se répandre dans les couloirs. Richard déclara qu'à son avis, il ne fallait pas céder à l'affolement. Il s'agissait d'une fièvre à complications inguinales, c'était tout ce qu'on pouvait dire, les hypothèses en science, comme dans la vie, étant toujours dangereuses. Le vieux Castel, qui mâchonnait tranquillement sa moustache jaunie, leva des yeux clairs sur Rieu. Puis il tourna un regard bienveillant vers l'assistance et fit remarquer qu'il savait très bien que c'était la peste, mais que, bien entendu, le reconnaître officiellement obligerait à prendre des mesures impitoyables. Il savait que c'était, au fond, ce qui faisait reculer ses confrères, et partant, il voulait bien admettre, pour leur tranquillité, que ce ne fut pas la peste. Le préfet s'agita et déclara que, dans tous les cas, ce n'était pas une bonne façon de raisonner.
« L'important,
dit Castel,
n'est pas que cette façon de raisonner soit bonne, mais qu'elle fasse réfléchir. »
Comme Rieu se taisait, on lui demanda son avis.
« Il s'agit d'une fièvre à caractère typhoïde, mais accompagnée de bubons et de vomissements. J'ai pratiqué l'incision des bubons. J'ai pu ainsi provoquer des analyses où le laboratoire croit reconnaître le bacille trapu de la peste. Pour être complet, il faut dire cependant que certaines modifications spécifiques du microbe ne coïncident pas avec la description classique. »
Richard souligna que cela autorisait les hésitations et qu'il faudrait attendre au moins le résultat statistique de la série d'analyses commencée depuis quelques jours.
« Quand un microbe,
dit Rieu après un court silence,
est capable en 3 jours de temps de quadrupler le volume de la rate, de donner au ganglion mésentérique le volume d'une orange et la consistance de la bouillie, il n'autorise justement pas d'hésitation. Les foyers d'infection sont en extension croissante. À l'allure où la maladie se répand, si elle n'est pas stoppée, elle risque de tuer la moitié de la ville avant 2 mois. Par conséquent, il importe peu que vous l'appeliez peste ou fièvre de croissance. Il importe seulement que vous l'empêchiez de tuer la moitié de la ville. »
Richard trouvait qu'il ne fallait rien pousser au noir et que la contagion, d'ailleurs, n'était pas prouvée, puisque les parents de ces malades étaient encore indemnes.
« Mais d'autres sont morts, »
fit remarquer Rieu.
Et bien entendu, la contagion n'est jamais absolue, sans quoi on obtiendrait une croissance mathématique infinie et un dépeuplement foudroyant. Il ne s'agit pas de rien pousser au noir, il s'agit de prendre des précautions.
Richard, cependant, pensait résumer la situation en rappelant que pour arrêter cette maladie, si elle ne s'arrêtait pas d'elle-même, il fallait appliquer les graves mesures de prophylaxie prévues par la loi, que, pour ce faire, il fallait reconnaître officiellement qu'il s'agissait de la peste, que la certitude n'était pas absolue à cet égard et qu'en conséquence, cela demandait réflexion.
« La question,
insista Rieu,
n'est pas de savoir si les mesures prévues par la loi sont graves, mais si elles sont nécessaires pour empêcher la moitié de la ville d'être tuée. Le reste est affaire d'administration et, justement, nos institutions ont prévu un préfet pour régler ces questions.
« Sans doute,
dit le préfet.
Mais j'ai besoin que vous reconnaissiez officiellement qu'il s'agit d'une épidémie de peste.
Si nous ne le reconnaissons pas,
dit Rieu,
elle risque quand même de tuer la moitié de la ville.
Richard intervint avec quelque nervosité.
La vérité est que notre confrère croit à la peste. Sa description du syndrome le prouve.
Rieu répondit qu'il n'avait pas décrit un syndrome. Il avait décrit ce qu'il avait vu. Et ce qu'il avait vu, c'était des bubons, des taches, des fièvres délirantes fatales en 48 heures. Est-ce que M. Richard pouvait prendre la responsabilité d'affirmer que l'épidémie s'arrêterait sans mesure de prophylaxie rigoureuse ? Richard hésita et regarda Rieu.
Sincèrement, dites-moi votre pensée. Avez-vous la certitude qu'il s'agit de la peste ?
Vous posez mal le problème. Ce n'est pas une question de vocabulaire. C'est une question de temps.
Votre pensée,
dit le préfet,
serait que, même s'il ne s'agissait pas de la peste, les mesures prophylactiques indiquées en temps de peste devraient cependant être appliquées.
S'il faut absolument que j'aie une pensée, c'est en effet celle-ci. Les médecins se consultèrent et Richard finit par dire
« Il faut donc que nous prenions la responsabilité d'agir comme si la maladie était une peste. »
La formule fut chaleureusement approuvée.
« C'est aussi votre avis, mon cher confrère ?»
demanda Richard.
« La formule m'est indifférente, »
dit Rieu.
« Disons seulement que nous ne devons pas agir comme si la moitié de la ville ne risquait pas d'être tuée, car alors, elle le serait. »
Au milieu de l'agacement général, Rieu partit. Quelques moments après, dans le faubourg qui sentait la friture et l'urine, une femme qui hurlait à la mort, les aines ensanglantées, se tournait vers lui.